France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et pourquoi vous en faites autant? Parce que quand on regarde votre filmographie, on voit que vous avez fait, je crois, 67 ou 69 films.
Presque, oui, 70 presque. Mais je vais vous dire, alors, vous en faites une tous les jours d'émissions. Moi, je ne fais que 2 films par an.
Alors, c'est votre moteur.
Mais moi, je m'ennuie, n'est-ce pas? À la limite, je vais, quand j'aurai 90 ans, si je les ai un jour, comme mon ami René, par exemple, ou alors Oliveira, qui a 107 ans et qui tourne toujours.
Le cinéma comme survie, vie et comme survie pour plus tard.
Moi, je pense que la retraite n'existe pas pour des gens comme nous, que ce soit des journalistes, des écrivains, des musiciens, des peintres. Il n'y a pas de retraite, parce que là, pourquoi s'arrêter de peindre? Pourquoi s'arrêter de faire de la musique?
Jean-Pierre Mocky au micro de Laure Adler dans l'émission Hors Champ sur France Culture. C'était une archive d'avril 2014. Jean-Pierre Mocky qui s'est éteint donc hier à l'âge de 90 ans, à peu près, on va dire. Il laisse une filmographie pléthorique, un regard particulier sur la société et puis l'image d'une grande gueule aussi, toujours là pour démonter les institutions, les convenances et les bourgeois. Bonjour Antoine Delelis.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous étiez le premier assistant de Jean-Pierre Mocky depuis 2004. Vous êtes aussi monteur et scénariste. À vos côtés, Jean-François Roger, critique de cinéma. Bonjour.
Bonjour.
Et directeur de la programmation à la Cinémathèque française. Et puis François Angelier. Bonjour.
Bonjour.
Producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, spécialiste de littérature et de cinéma populaire. Alors on va rendre hommage à cette immense figure du cinéma français qui nous a quitté hier, Jean-Pierre Mocky. D'abord, Antoine Delelis, on a entendu tout à l'heure un extrait de ce reportage de striptease qui avait été tourné sur un plateau de Jean-Pierre Mocky où il laissait exploser sa colère comme ça. Est-ce que vous qui l'avez connu donc dans le contexte du travail, vous aviez aussi ce genre de rapport avec lui? Est-ce que c'était difficile de travailler avec Jean-Pierre Mocky avec un caractère aussi fort?
Non, c'était pas difficile. Et puis c'était les gens qui le connaissent et qui étaient sur les plateaux avec lui vous diront toujours qu'il râlait et qui criait pour rigoler, c'était plus pour motiver les troupes et surtout se motiver lui-même, quoi.
C'était quand même une facette du personnage, hein, cette grande gueule. Alors on l'a entendu aussi tout à l'heure dire non, je suis pas un art, c'est pas ça le problème. Je fais ce que je veux, c'est différent. Il y a une image qui lui colle à la peau, peut-être qui est pas vraiment la vraie image, Antoine Delelis.
Si, c'est l'image qu'il a voulu se donner.
François Angelier.
Oui, je pense pas que c'était un râleur et une grande gueule. C'est l'expression me gêne un peu. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait le cinéma qu'il a fait par nécessité de rester libre. Faisant ce cinéma-là et la manière dont il le faisait, en dehors de toutes les contraintes de distribution classique, enfin toute espèce de machinerie et de pesanteur classique, lui, il a fait un cinéma mobile, effervescent, intempestif, d'une totale liberté, tournant vite, maintenant les troupes à coups de moteur comme ça. Je pense que sa vie c'était dire moteur, c'est-à-dire passer à l'action, passer à truc. Et donc à ce moment-là, c'est un cinéma qui restera unique à cause de ça. Mais il est plus je dirais, c'est plus un regard intempestif sur la réalité et l'histoire, Mocky, qu'une volonté de faire scandale ou de la ramener. Je pense que c'était pas un râleur.
C'est une œuvre pléthorique, hein. Alors il le disait lui-même, 70 films, c'est pareil, on n'a pas trop su compter jusqu'au bout, mais à peu près 70 films, Jean-François Roger, il y a quand même une constante, des constantes dans le cinéma de Jean-Pierre Mocky. Parce qu'on dit qu'il est inclassable, mais
le terme inclassable, c'est un terme un peu facile, effectivement, qui est repris par tout le monde ou par, en tout cas par beaucoup de gens. En fait, il n'est pas si inclassable que ça. La question de la place de Mocky en fait dans le cinéma français, elle est subtile et elle est assez marrante en fait. Parce qu'en fait, c'est un type qui dans les années 60 fait des succès commerciaux. Il fait des films du samedi soir avec les grandes stars de la comédie populaire française, Bourville. Il a fait un film avec Fernandel. Il tourne avec Serrault dans les années 80. C'est des films qui marchent. Donc c'est pas c'est c'est pas le petit indépendant dans son coin qui résiste au système, etc. C'est quelqu'un qui attire les foules dans les salles. Et sa singularité, en fait, elle vient pas de sa marginalité, d'une marginalité, disons, à l'intérieur du système. Elle viendrait plutôt du fait qu'il est le seul à faire ce qu'il a fait avec ces comédiens-là, avec ces stars du cinéma populaire français, ces vedettes comiques, etc. Il est le seul à les utiliser comme ça. Il a été le seul à les utiliser comme ça. On peut dire que, moi je le dis volontiers, il a sauvé l'honneur du cinéma comique populaire français des années 60.
60, hein. 70.
Je veux dire que sans les films de Mocky, on s'intéresserait plus. Enfin, c'est un cinéma qui est pas passionnant. Et là, Mocky, lui, a proposé quelque chose de personnel en dénaturalisant, en fait, le jeu des comédiens, notamment. Et les situations. C'est-à-dire que lui, il avait un truc, le moindre personnage, même le plus obscur, second rôle, etc., il devait avoir un truc qui fait qu'on ne le voyait que lui. C'est un tic, une manie verbale, un tic, une manière de parler, de tourner la tête ou je sais pas, n'importe quoi. Et que tout d'un coup, ça faisait pas naturel. Et en fait, en ne faisant pas naturel, il introduisait de l'étrangeté, du bizarre dans des films qui, sinon, prenaient le risque d'être assez plats ou de ne se réduire qu'à un argument qu'on peut dire effectivement anarchiste, etc. Mais c'est pas seulement ça. C'est que lui, vraiment, introduisait du bizarre, de l'étrangeté à l'intérieur d'un cinéma qui rejetait plutôt ça, d'ailleurs.
Mais c'est révélateur d'un regard acéré sur la société, parce que c'est ça aussi le cinéma de Mocky.
Oui, bah le lui, de toute façon, il aimait beaucoup, enfin tout ce qui pouvait prêter à rire et à indignation, et d'ailleurs les deux mêlés.
À contestation aussi.
Donc il s'attaquait à la télévision avec la grande lessive, par exemple. Non pas la télévision, mais la dépendance.
La dépendance à la télévision. Ce qui est d'ailleurs un thème très moderne finalement.
Absolument. Donc il y a ça, il s'attaquait avec les compagnons de la Marguerite, à l'institution du mariage, par exemple, etc. Donc il attaquait les institutions. Il attaquait les pouvoirs, il attaquait la bourgeoisie. Il y avait ce côté-là chez lui, absolument. On peut dire les sujets de société, quoi. Mais pour les démonter, pas du tout pour faire un cinéma sociologique, mais pour son cinéma, en fait, c'était une manière de démontage par la bizarrerie et l'étrange, en fait.
Mais sans forcément de parti pris, c'est ce que vous nous dites, Jean-François Roget. Il y avait simplement la volonté de démonter pour montrer peut-être l'époque dans laquelle.
Parti pris, je pense qu'il devait détester la France des années 60, des années 70, la France gaulliste, la France popidolienne. C'est quelqu'un qui, quand même, il devait être de parti pris. Enfin, ouais. On peut pas imaginer quelqu'un faisant les films qu'il a fait sans être de parti pris.
François Angelier.
Oui, je pense que l'œuvre de Mocky, qui est rassemblée dans une espèce de bar ou de bûche énorme dans lequel il y a tous ses films, est véritablement une comédie humaine ou inhumaine cinématographique, puisque depuis le début, depuis Les Dragueurs jusqu'à son dernier film qui est sur la l'ubérisation de la police, à Tous flics, tourné en avril, ça n'est qu'un regard permanent sur la société française et sur effectivement ses institutions. Tout le monde en a pris pour son grade, les militaires, les politiques, la religion, l'Église catholique, la France moyenne, l'éducation nationale. Donc tout le monde, un jour ou l'autre, a été appelé à la barre par Mocky. Et selon, effectivement, comme disait Jean-François Roget, un système assez étonnant, qui est de faire du cinéma non réaliste avec la réalité historique la plus brute. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a de réalisme chez Mocky. C'est quelqu'un qui relève plutôt d'une vision... La société n'est pas déterminée, elle est mystérieuse. Sa société de production, au début, s'appelait Balzac Film. Ça dit des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a plus à voir avec Blois qu'avec Le Canard Enchaîné. C'est-à-dire, il y a une vision hallucinatoire de la réalité où tous les personnages se révèlent avec un simple détail. Vous prenez, je sais pas, l'Ibis Rouge, alors soit les personnages ont des prothèses, ont un défaut de prononciation, ont un tic. Je regardais hier La Cité de l'Indicible Peur avec Bourville qui sautille en permanence, Raymond Rouleau qui fait quoi après toutes ces phrases, Jean Poiret qui fait pouf pouf pouf, qui fait bon, les personnages ont une espèce de tic qui peut paraître
particulière,
qui n'a aucun moment n'est caricatural, mais qui extrait le personnage, qui extrait sa vérité au personnage. Ça, c'est très étonnant.
Ouais. Et sans être un révélateur psychologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la psychologie, on est dans quelque chose d'autre. On peut dire, je sais pas, disons, dans les comédies disons plus standardisées des années 60, on sait qu'on voit à peu près quel type de personnage joue De Funès, par exemple, ou Bourville. Chez Mocky, à chaque fois, il nous surprend. C'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui correspond pas à l'idée qu'on pouvait se faire de l'acteur. Un des plus bels exemples, c'est Bourvil dans Les Talons. Oui. Qui est un entremetteur qui fournit des amants aux femmes mariées délaissées par leur époux, et il a le crâne rasé, et c'est très bizarre, quoi. Et donc, il y a toujours cette manière de surprendre. Par ces idées-là, quoi.
Ouais, un drôle de paroissien aussi. Dans Un drôle de paroissien, Bourvil est aussi à contre-emploi. C'était ce qu'il aimait, François Angelier.
Alors, à contre-emploi, peut-être un peu moins, puisque c'est un aristocrate ruiné qui survit par le pillage des troncs. Alors là, on est peut-être plus dans quelque chose de cohérent. On n'est pas dans l'hallucination, on n'est pas dans la tératologie, la monstruosité. Mais effectivement, là, ce qui est extraordinaire dans Un drôle de paroissien, c'est pas tellement le fait de piquer les troncs, c'est la technologie qui est mise au service. C'est-à-dire que Bourvil a toujours des aspirateurs à pièces de monnaie, il y a toute une stratégie, il y a toute une technologie du vol qui se met en place. C'est ça qui est important, parce que c'est à sa manière une critique de la technologie des années 60. Enfin, c'est ça qui est très étonnant. C'est en permanence, on est dans le présent de la société avec Mocky.
On va l'écouter.
Moi, je préférais les scénarios, parce que j'ai toujours tenu à traiter des grands sujets politiques ou sociologiques, etc. Pas contrairement à mes confrères. D'ailleurs, on m'a reproché souvent de parler des combats humains dans les laboratoires, du football, de la religion dans le miraculé, etc. On m'a toujours reproché de prendre des grands sujets. Dans la situation actuelle où nous nous trouvons, ben on pourrait aussi faire des films sur le chômage, sur l'industrie, les patrons, etc. Et je crois que le cinéma est fait pour ça. Et les grands Américains que j'aime, c'est Redford et Dustin Hoffman, qui est devenu un ami, Les Hommes du Président, par exemple, ou Oliver Stone, qui essaye de déchiffrer la mort de Kennedy. Enfin, des trucs comme ça. Alors moi, c'est ce cinéma-là qui m'intéresse. Pas les trucs, je couche avec ma femme de ménage, je couche avec la femme de mon ami. Tout ça, ça m'intéresse pas. Parce que je trouve que ce sont des sujets sans intérêt véritable. Parce que je pense que les problèmes humains aujourd'hui, les problèmes de société sont énormes. Je crois que le but d'un cinéaste, c'est justement d'essayer de faire des choses sur l'époque où il vit, pour que plus tard, on connaisse ces choses-là.
Voilà, ça c'est un des axes aussi de Jean-Pierre Mocky. Antoine Delolis, tout à l'heure, François Angelier a évoqué le dernier film de Mocky, Tous flics, sur les Gilets jaunes, c'est ça?
Déjà, c'est un film qu'on a tourné en mai, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, ouais. Qui vient à peine de... Le montage est à peine terminé, il ne manque plus que la musique que Vladimir Kosma va faire. C'est un film, celui-là, qui avait été imaginé par Jean-Pierre à l'époque de Sarkozy, qui voulait faire passer une loi sur les adjoints de police. Enfin, on pouvait devenir adjoint de police. Ça avait fait un tollé, bon, c'est jamais passé. Et puis là, avec tout ce qui s'est passé, ouais, il trouvait que ça revenait un peu au goût du jour. Alors, effectivement, dans le film, il n'y a pas les gilets jaunes, mais comme c'est une autre loi où tout le monde peut devenir policier, là, il y a les gilets roses. Mais voilà, c'est on est amusé à le faire.
Ouais, c'est important d'être dans l'époque. Hein, c'est ce qu'on entendait Jean-François Roger.
Tout fait histoire. Alors, ouais. Okay. Tout est prétexte à histoire, à récit, les événements, le fait divers, les événements politiques, à tous les degrés de la société, du chômeur au député. Enfin, c'est ça qui était passionnant.
Quoi. Il s'intéressait à tout le monde. François Angelier.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs que dans un siècle, on voit l'histoire de France au travers de Jean-Pierre Mocky. Ça restera comme une sorte d'extraordinaire regard permanent pendant combien de temps? Le début, c'est Mocky, c'est les années 50.
C'est 59.
Un demi-siècle. Un demi-siècle de cinéma au contact permanent de la société française avec un regard comme ça qui ne lâche rien et qui n'a jamais rien perdu de sa virulence et de sa puissance. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que...
si on veut avoir par exemple une idée sur les années post-68, il faut voir sa série de films noirs. Les films qu'il fait juste après 68, dire Solo, L'Albatros, Un linceul n'a pas de poche, et jusqu'à Le piège à con, qui est un film de la fin des années 70. Et là, sont des films, alors là, ils changent un peu de registre, ça a l'air un peu plus sérieux. En même temps, les méchants sont toujours assez grotesques, etc. C'est pas subtil, on n'est pas dans la subtilité. C'est des récits romantiques où lui-même se donne le premier rôle plutôt d'un redresseur de tort qui meurt systématiquement à la fin. Et on peut dire que ce sont des films qui reflète bien la désillusion post-68arde, à la fois le romantisme et la désillusion qui a suivi les années d'après 68. Et donc effectivement, on a quelque chose de l'esprit de l'histoire, enfin de ce moment de l'histoire de France dans ces films-là, par exemple.
Et si on parle d'histoire du cinéma, quelle trajectoire de Jean-Pierre Mocky par rapport à la nouvelle vague
Oui, alors c'est
intéressant,
ça,
parce que
bien sûr,
il
vient pas de nulle part. Je pense que il est apparu à un moment assez clé de l'histoire du cinéma en France. D'abord, au départ, c'était un comédien. C'est-à-dire qu'il a même dit qu'en fait, c'est parce qu'il a vu son avenir de comédien boucher qu'il s'est mis à la réalisation. En fait, c'était une belle gueule des années 50, un jeune premier. Et or, le cinéma français de cette époque s'intéresse pas aux jeunes premiers. Il spécule sur les vedettes vieillissantes, Gabin, Fernandel, Pierre Fresnay, encore
Pargenté,
qui fait des films dans les années 50. Donc, il va faire un petit tour en Italie. Il tourne avec Antonioni, d'ailleurs. Et puis, il revient et puis, il se met à la réalisation, La tête contre les murs, que finalement, il ne tournera pas. Et puis, Les Dragueurs, c'est un film de 69, c'est un film très intéressant. C'est un film dont il dira qu'il a été un peu autobiographique, l'histoire de deux types qui draguent des filles dans les rues de Paris.
Aznavour
et Jacques Charrier. Ouais. Et on pourrait dire que c'est presque un film de la nouvelle vague. On n'est pas loin. Hein. Ouais. Petit sujet, dimension autobiographique, un romantisme un peu... on est entre Chabrol, Truffaut, un peu Chabrol et Truffaut, par exemple. Et puis ça va... On peut dire, il fait un couple, il fait Les Vierges, sur des films qu'on peut assez facilement rattacher à la nouvelle vague. Et puis tout d'un coup, non. Il va passer à autre chose. C'est pas vraiment... Il a pas vraiment la même formation intellectuelle que les cinéastes de la nouvelle vague, leur cinéphilie, etc. Et donc lui va faire des comédies avec des acteurs connus, et ça va être ça en fait, la voix qu'il va choisir.
Ouais. On va écouter un extrait.
Pour Richard, pour Reynald, pour Carole, pour vous. Mettez ça au compte, Marie-Christine, et vous préparez l'échec.
On ne le déclare toujours pas ?
Non, j'ai gagné au loto.
Vous savez, monsieur, ça me fait toujours un malaise, cet argent sale.
D'abord aux autres de ne pas salir les murs en s'appuyant dessus. Non !
Excusez-moi, voilà la liste pour demain.
Où en est la vente en Argentine ?
Toujours pas de nouvelles.
Telex, Marie-Christine, Telex !
Oui, monsieur. Ça m'ennuie vraiment de me déclarer au chômage et de recevoir de l'argent. Vous ne pouvez vraiment pas dire d'où ça vient ?
Connaissez l'origine du mot secrétaire ?
Je ne comprends pas.
Secrétaire. Secret.
Ça, c'est Jean-Pierre Mocky qui joue. Vous aviez évoqué Jean-François Roger, le Mocky, acteur, comédien aussi. Il a joué tout au long de sa carrière, hein, finalement. Là, c'était chez Godard, Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma.
Oui, d'ailleurs, Godard devait lui donner aussi, avant ça, le rôle principal de Prénom Carmen. Et puis, il y a un problème de calendrier. Et donc, finalement, c'est Godard lui-même qui va tenir sur le rôle de l'oncle. Et Mocky apparaîtra juste dans une séquence d'hôpital où il hurle sur son lit. Et dans Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, le personnage de Mocky, qui joue un producteur, s'appelle Almereda, qui est le vrai nom de Jean Vigo, cinéaste à la fois météorite et anarchiste. Et donc Godard aimait beaucoup Mocky. Oui.
Puisqu'on parle de petit commerce de cinéma, à la fin de sa carrière, Mocky, c'était un fonctionnement un peu en circuit fermé, parce qu'il produit énormément de films. Il en a produit vraiment beaucoup. Chaque 2015, je crois, c'est 3 ou 4 films. Ouais. Et puis, il les montrait lui-même, dans son cinéma, Le Desperado. Ça veut dire aussi peut-être quelque chose du personnage, François Angelier ?
Oui, effectivement, mais est-ce qu'il aurait souhaité une diffusion plus large? Je sais pas.
Il les montrait même pas à la presse, par exemple.
Voilà,
soutenu, qu'il a un peu lâché, donc il a râlé.
C'est devenu un journal de bord ou un journal intime.
Il s'intéressait plus à ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il associait son nom quand même à des cinémas mythiques, notamment le Brady.
Qu'il avait racheté
avant. Au livre de Jacques Torrance, paru chez Vertical, qui est un des cinémas cultes, qui est un des hauts lieux du cinéma de genre français. Donc il avait racheté. Puis après le Desperado, qui était l'Action École, dont il avait fait le Desperado, qui était une taverne de naufrageurs cinématographiques où on pouvait voir les films qu'il aimait.
Mais on peut dire qu'à un moment donné, le système a plus voulu de Mocky. Et Mocky s'est débrouillé sans le système, même contre le système, puisqu'il a encore fait plus de films qu'avant. C'est au moment où il était dans les structures, il trouvait des financiers, des chaînes de télévision pour produire ses films. Ouais. Et donc, il a fait une espèce de pied de nez qu'il a fait au système. Il dit, vous intéressez plus à moi, ben, je vais encore en faire plus. Et donc, ça, c'est assez magnifique.
Cinéma compte d'auteur.
C'est ça. Je fais ce que je veux. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Merci. Antoine Delelis, premier assistant de Jean-Pierre Mocky, Jean-François Roger, de la programmation de la Cinémathèque française, et puis François Angelier pour Mauvais Genre, qui reprend à la rentrée.
Absolument, tous les samedis à 22h.
Mêmes horaires sur France Culture. Merci, 8h55.